Salut, bonsoir, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1, en espérant que vous ayez passé une belle journée, un excellent vendredi à tout le monde. On va passer certainement une belle soirée. Ce soir, Jean-François Lacasse, qui est conférencier, et c'est le bâtisseur de la communauté. J'ai retrouvé mon mot d'entraide, m'aider. Salut Jean-François.
Salut, comment ça va?
Ça va très bien, merci d'être présenté dans nos studios, c'est le fun. J'aime bien ça, jaser à chaque soir avec des individus. Quand ils ne peuvent pas se présenter, on le fait sur Zoom, mais quand j'ai hésité directement en face de moi, on dirait que c'est plus facile.
Quand j'ai eu l'appel, j'ai dit « Hey, moi, je suis à Québec, je vais être là. »
Ouais. Ouais. T'es-tu un gars de Québec même ou c'est par affaire que tu t'es
emmené vers Québec? Je suis originaire de la Beauce, ouais. Donc je suis Beauceron.
Quel endroit en Beauce?
La Guadeloupe.
La Guadeloupe! c'est exotique.
Ouais, très, très, très exotique. Tu arrives, tu descends, puis quand tu repars du village, tu remontes.
Tu remontes. Ouais. Je vais me promener là en moto assez souvent. Mes gars habitent là avec leur mère la semaine. Puis nous autres, on est plus dans le secteur de Sainte-Marie-Scott.
OK.
Donc, mais c'est tellement de beaux endroits en campagne. La Beauce, là, c'est des petits villages qui sont le fun à voir.
Puis du bon monde.
Ouais, du bon monde avec des valeurs fondamentales.
Ouais.
Moi, je suis un gars de Québec. Puis je m'étais toujours dit quand j'étais jeune, moi je veux que mes enfants aient les valeurs fondamentales très profondes. Puis j'ai rencontré des Beaucerons, je regardais la façon dont ils géraient leur famille et tout ça, à quel point ils étaient proches de leurs cousins, leurs cousines et tout ça. Puis je me suis dit, garde, c'est ça que je veux. Puis aujourd'hui, c'est ça que j'ai. Tu sais, j'ai mes petits gars sont Beaucerons. Là, ils commencent à avoir un petit peu l'accent. Toi, tu sembles pas l'avoir. Là.
Non. Mais écoute, ben, c'est parce que ça fait trop longtemps là, que je suis parti. Ça fait plus de près de 25 ans. Je suis à Québec là, maintenant.
OK. Ouais. Puis tu étais venu à Québec pour les études?
Oui, d'une certaine façon. Mais je me suis établi à Québec là, au début des années 2000 à peu près.
Okay.
Mais j'ai été ici à l'Université Laval, au Cégep Garneau. Donc, je connais le coin là, parce qu'après la Beauce, je me suis ramassé dans Lobinière, à Saint-Apollinaire, fait que sur la rive sud de Québec, à une vingtaine de minutes. Puis c'est ça, j'ai décidé de venir à Québec au début des années 2000.
Puis à la fin de tes études, tu as travaillé dans quel domaine?
Moi, j'ai un bac en droit. Donc, j'ai pratiqué pendant 4-5 ans, jusqu'à temps que je me rende compte que c'était pas fait pour moi.
On t'appelait maître Jean-François Lacasse.
Ouais. Puis, écoute, Yannick, j'en avais des nausées le matin. Là, puis, à un moment très jeune dans ma carrière, il a fallu que je prenne une décision. C'est-à-dire, écoute, moi, j'écoutais des films d'avocats quand j'étais jeune.
Ouais.
Puis je trouvais que c'était donc inspirant, tu sais, en VHS, là, les hommes d'honneur, tu sais, Aaron Brockovich.
Oui.
Puis là...
Des plus ou moins sérieux, là, l'avocat du diable avec Keanu Reeves, puis c'est-tu Robert De Niro qui était dedans ou c'est l'autre?
Je pense que oui.
Mais Keanu Reeves était là, puis il y avait un autre super bon acteur qui était là-dedans. C'était le fun, ces films-là, sur les avocats.
Ben, tu sais, là, l'avocat qui ramasse une cause qui est comme un peu déficiente, puis que là, tu te bats contre une grosse machine, puis là, finalement, dans le film, c'est la justice qui l'emporte à la fin. Là.
Ouais.
Moi, j'avais des frissons quand j'écoutais ça. Je me suis dit, hey, je vais être avocat. Mais,
les avocats d'affaires, il y avait Suits aussi, qui est une bonne série
oui,
sur les avocats.
Très bonne série.
Un peu dramatique, là, mais c'est une bonne série.
Puis quand j'ai commencé à rencontrer des clients, aller au palais de justice, à voir l'environnement qui ça se passait dans les bureaux, j'ai rapidement, tu sais, mon rêve hollywoodien là, a pris le bord, là, c'est-à-dire que je voulais pas nécessairement faire ça pendant le restant de mes jours. Donc, je me suis dirigé à ce moment-là dans le domaine des services financiers. À mon compte d'abord, puis après ça, j'ai gravi les échelons chez Desjardins à partir de 2009-2010. Jusqu'à tout récemment, là, j'ai quitté en 2020 pour me lancer dans ce que je fais aujourd'hui. Puis, j'ai quitté Desjardins un mois avant la pandémie pour aller donner des conférences en entreprise.
Hey boy.
Méchant bon timing, hein?
Je sais pas s'il y avait des gens dans ton entourage ou si t'étais en couple, mais quand tu te dis « Ah bon, ben moi, je quitte ma job stable chez Desjardins avec un bon salaire, je me lance en entreprise un mois plus tard. » Merci, bonsoir, on ferme.
Je te confirme que des REER, t'es pas obligé d'attendre à 75 ans pour les décaisser.
Non!
Puis c'est sûr et certain, puis moi qui fais de la prévention puis de la sensibilisation en santé mentale, Ben, j'imagine qu'il y a certaines personnes qui ont questionné si j'allais bien ou pas, là, t'sais, pour me lancer carrément dans le vide dans cette aventure-là.
Moi, j'arrête de me questionner par rapport à ça. J'ai tellement de gens qui décident de faire des sauts comme ça. On dit des sauts dans le vide, mais c'est parce que nous, on est à l'extérieur, mais ces gens-là planifient des fois. Ouais. OK, ben voici, je suis rendu à tel endroit dans ma carrière. Maintenant, je vais me lancer en affaires, peut-être dans mon domaine ou dans un autre. J'aime ça voir ces gens-là qui sont extrêmement courageux. Puis parfois même, ils se cassent la gueule, mais tu sais quoi, après ça, se relève, puis il restait deux, trois fois au pire, mais ils réussissent, ces gens-là.
Exactement, puis il ne faut pas voir les parcours atypiques comme des gens qui sont des extraterrestres. Là. Tu sais, des fois, les gens sont un peu gênés de dire « moi, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça », mais il arrive un moment aussi que tu vas acquérir des connaissances dans toutes sortes de sorte d'affaires, puis ça va te servir là, en cours de route, là, c'est clair, net et précis. Là.
Puis t'en es venu comment devenir conférencier en santé mentale?
Ben en fait, moi, c'est une expérience de vie qui a fait en sorte, à un moment donné, que j'ai frappé un mur. J'ai appelé ça mon atterrissage forcé. J'ai reçu un diagnostic de dépression majeure au printemps 2018, à peu près à cette période-ci, il y a 6 ans. Puis, évidemment, le temps de me remettre sur pied, le moment où j'ai été en arrêt de travail pendant 6 à 7 mois, je me suis beaucoup questionné. Je me suis... en fait, j'ai même développé une certaine obsession de vouloir comprendre qu'est-ce qui s'était passé.
Ben avec raison.
Et là, tu sais, moi qui avais une formation légale, j'ai commencé à me documenter, je suis tombé sur des chiffres. Puis là, je me suis dit, OK, là, je fais partie des statistiques. Puis à l'époque, c'est 500 000 travailleurs par semaine au Canada sont en invalidité court terme dû à un problème de santé psychologique. Ça, c'est les chiffres de 2019. Et là, je me suis dit, OK, je fais partie des chiffres, des statistiques. Je venais à peine de me relever un peu de ma dépression. Je me suis séparé après plus de 15 ans de vie commune. Fait que là, genre replanté. Puis quand je suis revenu sur le marché du travail, 6 à 7 mois plus tard, je suis revenu avec des lentilles qui étaient différentes. C'est-à-dire que je voyais des gens courir dans le corridor pour retourner des appels téléphoniques. Je voyais des gens qui prenaient pas le temps de dîner, qui prenaient pas de pause. Puis moi, c'est sûr que j'ai commencé à faire des changements dans mes habitudes parce que j'étais quelqu'un qui travaillait très, très fort, puis j'avais pas de limite. J'étais un performant. Puis je suis pas contre la performance, soit dit en passant. Je pense que c'est important. Il y a une forme de reconnaissance, puis tout ça. Mais quand ça déborde, puis que ça s'en va vers la performance à outrance, c'est là qu'on peut s'auto-piéger d'une certaine façon. Et c'est ce qui m'est arrivé. Tu sais, moi, je fais des analogies avec l'aviation pour faire de la prévention, de la sensibilisation. De là, l'expression « m'aider, m'aider », « m'aider » qui est un signal de détresse en aviation. L'autre « m'aider », c'est un jeu de mots. C'est « m'aider ». Comment je peux m'aider pour autant que possible éviter un « m'aider » Donc, évidemment, devant ces statistiques-là, devant ma propre expérience de vie, je me suis dit, oui, il y a des coûts indirects hyper importants en lien avec ce phénomène-là dans notre société. Mais surtout, Yannick, il ne faut pas oublier, au-delà de ces statistiques-là, à la fin de la journée, là, ces gens-là, c'est des papas et c'est des mamans.
Ah, c'est des gens, c'est des collègues, c'est des gens qui évoluent dans notre société.
C'est ça, exactement. Ouais. Puis, évidemment, quand on vit un enjeu de santé psychologique, que ce soit dépressif, burn-out, épuisement, name it, là, c'est sûr et certain que tu ne veux pas que ça te reproduise, ça se reproduise, puis tu dois développer en quelque sorte des outils ou des astuces pour être en mesure de mieux piloter ta santé psychologique.
Ouais. J'ai plein de questions, Jean-François. On est avec Jean-François Lacasse qui est conférencier. Comment on se sent quand on est en dépression? Parce qu'il y a plusieurs types de dépression. Puis, tu sais, je veux pas embarquer dans des trucs bien complexes puis très psychologiques, là. Mais, tu sais, il y a de la dépression saisonnière. Après ça, il y en a qui disent, ben va chez Walmart, achète-toi une lumière, ça va le régler. Mmh. Ça a l'air qu'il y en a qui réussissent à régler leur dépression saisonnière avec ça parce qu'il manquait de lumière. Mais il y en a qui disent, non, la dépression, c'est pas mal plus intense que ça, là. Mmh. T'es plus capable de te lever pour manger. T'as de la misère à te lever pour aller te laver. Moi, j'ai des gens autour de moi qui ont des problématiques en santé mentale. Quand ils tombent, là, ils tombent. Puis la dernière des affaires qu'ils veulent, c'est quelqu'un à côté qui les traite de lâches. Ouais. Comment tu te sentais, toi, quand tu es tombé? C'est quoi les signaux que tu avais? Est-ce que la nourriture goûtait la même chose? Est-ce que quand tu regardais le ciel, c'était-tu encore bleu ou c'était complètement gris? Tu voyais rien?
Excellente question. Puis, tu sais, dans les mois et même les années qui ont précédé mon atterrissage forcé, là, moi, je dis régulièrement en intervention que j'ai cultivé un terrain propice à l'apparition de ma condition. J'avais des signes qui étaient déjà là, mais j'y prêtais pas attention. De là, l'outil que j'utilise, moi, en intervention, qui est comment faire la lecture de son tableau de bord. Au même titre qu'une voiture avec le check engine, bien, il y a des signaux. Et juste pour te donner quelques exemples, moi, 2 ans avant mon crash, mon ex-conjointe pouvait mettre une assiette de travers dans le lave-vaisselle, puis je pétais une coche de 2 minutes. Donc, l'irritabilité était devenue un trait de caractère. Puis ce qui est sournois avec ça, c'est que t'sais, on peut être irritable, là, ça m'arrive encore de l'être, mais le danger, c'est quand la lumière reste allumée. T'sais, puis à un moment donné, cette irritabilité-là va se transposer en colère. T'sais, puis être irritable, c'est une lumière jaune allumée. Être colérique, ben, c'est une lumière orange.
Mais c'est comme un billet de confirmation que tu te mets dans ta tête, puis tout t'irrite finalement.
Oui, exact. Des niaiseries. C'est-à-dire que, t'sais, je sais pas, moi, quelqu'un qui me dépasse au volant, puis là, t'sais, tu viens fâcher. La fille de la conformité qui pouvait... venir dans mon bureau quand j'étais chez Desjardins parce que j'avais oublié une virgule sur tel formulaire, il fallait tout que je recommence ma job. Quand t'es au bout du rouleau ou quand t'as moins d'énergie ou quand t'as des signes de détresse psychologique, souvent, ça peut t'arriver fréquemment. Et à la toute fin, des fois, je partais de chez moi en voiture, je pouvais perdre un 15 secondes en route pour dire « Hey, je suis en train de conduire, moi, là. » Donc, évidemment, à la fin, mes symptômes se sont intensifiés.
Est-ce que tu essayais de compenser? Parce que, tu sais, veux pas... Moi, de mon côté, qui n'a jamais tombé, puis ça veut pas dire que je tomberai pas un jour, mais moi, de mon côté, qui a toujours eu relativement une bonne santé mentale, quand je sens que ça va peut-être un peu moins bien... J'essaie de compenser. Je m'en vais faire du sport. M'en vais me promener dans la nature. Je m'en vais me promener dans le bois, dans les sentiers. Est-ce que tu faisais ça pour essayer de t'aider un peu, sachant que le tableau de bord commençait à s'illuminer?
En fait, moi, c'est là que je me suis auto-piégé. J'ai commencé à consommer plus d'alcool. J'ai commencé à me coucher un petit peu plus tard. J'ai commencé à travailler davantage. Donc, vu que j'étais pas bien, tu sais, un couple qui bat de l'aile, des fois, t'es pas bien à la maison. Fait que là, tu t'évades où? Tu t'évades dans le travail. Donc, quand je mentionne que c'est un peu de ma faute, c'est que j'étais pas à l'écoute de ces signes-là. Mais t'as parfaitement raison. Quelqu'un qui fait la lecture de son tableau de bord aujourd'hui, puis qui réalise que il y a quelques lumières d'allumer, ben oui, de bouger, c'est une des recommandations. D'identifier les difficultés, c'est une des recommandations. De s'outiller, d'en parler avec quelqu'un, de peut-être contacter son programme d'aide aux employés à la job.
Et ça, là, tu frappes un bon point, Jeff. On va continuer sur ta lancée après. Bon nombre de gens, quand ils ont des problématiques, ont toujours l'impression qu'ils doivent aller au CLSC ou encore à l'hôpital. Les amis, demandez juste à des gens de confiance. Y a-t-il un programme d'aide aux employés? Ça, je serais curieux. Ou le livre qu'on te donne à l'embauche, c'est écrit, tu sais, dans les assurances, là, c'est écrit, ben, y a un programme d'aide, numéro d'aide, psychologue, on a ça. Sérieux, ça va très vite. J'ai des gens autour de moi qui ont appris qu'il y avait un programme d'aide aux employés. Excuse-moi, c'est vendredi, on est fatigué. Il y avait un programme d'aide aux employés. Ils ont appelé et en quelques jours, ils ont été capables d'être aidés. Donc, tu fais bien de le mentionner. Il y a des programmes d'aide à la job.
Puis, je vais même aller plus loin que ça, Yannick. Hey, on est capable de faire du pouce, toi puis moi, ensemble.
On passera pas au travers des 4 sujets que je voulais jaser.
Hey, sérieusement, mais... Non, mais des fois, juste en parler avec un de tes bons chums, des fois, là, ça vient régler un paquet d'affaires. Mais parce que c'est tabou, parce que nous autres, les êtres humains aussi, on est résilients, on est courageux, on veut défoncer des portes. Des fois... c'est faux de dire que c'est un signe de faiblesse de mettre un genou à terre. Voyons, mettre un genou à terre ou juste dire « Sais-tu quoi, je me sens comme ça. T'es-tu déjà passé par là? » Tu sais, moi qui ai joué au hockey longtemps dans ma vie, là, dans la chambre d'hockey, on parle d'un paquet d'affaires, mais c'est bien rare qu'on va parler des enjeux qu'on a peut-être dans sa relation de couple, peut-être au travail, ces choses-là. Fait que des fois, puis moi je l'ai vu en intervention là, quand que je fais mon atelier « Check tes lumières », là. Des fois, moi, j'ai vu une dame se lever, là, de dire... Puis là, j'ai resté surpris. Elle se lève, toi, dans la foule de 100 personnes, puis elle dit, « Moi, là, je veux juste vous dire là, que je m'excuse, gang. » Parce que dernièrement, j'avais des lumières d'allumer, puis je vous en ai pas parlé. Puis là, suite au message de Jean-François, ben, je voulais juste vous le dire. Là, il y a un grand gars qui se lève là, de 6 pieds 2, puis je me souviens plus du nom de la dame, mais lui, il se lève, puis il dit « Sais-tu quoi? Je m'en étais rendu compte. Mais tu aurais dû venir me voir, puis moi, je t'aurais donné un coup de pouce. » Tu vois comment que les gens sont prêts à s'entraider, mais la chose la plus difficile, que ce soit en santé mentale ou autre, demander de l'aide, c'est pas quelque chose qui nous a été enseigné. Et il faut avoir cette, comment je pourrais dire, cette capacité-là de dire, sais-tu quoi, j'ai besoin d'un coup de main. Parce que c'est un sujet ultra tabou, oui, mais en même temps, si on veut vraiment régler le problème à moyen-long terme, va falloir être convaincu que demander de l'aide, c'est pas un signe de faiblesse.
Ouais, donc... C'est pas spécifique aux années 2000. Là.
Non.
Les gens avant se soignaient différemment. Si vous avez des histoires de grand-père ou grand-père, c'est sûr que vous avez entendu parler de ça. T'sais, le bonhomme, il buvait.
Ouais.
Il buvait pas parce qu'il était alcoolique. Il devenait alcoolique, mais il buvait pour essayer de gérer l'anxiété qu'il vivait. Mmh. Il était seul avec d'autres gars pendant des mois et des mois dans le bois pour faire le travail, puis il vivait du stress constant, ça faisait mal, il y a un mal au dos, il se médicamentait avec de l'alcool.
Ouais.
Mais aujourd'hui, les gens ont le droit de parler maintenant, ils sont plus dans le bois, fait qu'ils ont le droit de parler, mais ils ont le droit aussi d'aller voir des professionnels de la santé, d'aller voir le psychologue, ils ont le droit de s'admettre que parfois, ben, ça va pas toujours super bien. Je parlais avec Bruni Surin, il y a de ça quelques mois, qui me disait, Yann, moi, j'ai fait appel à un psychologue. Genre, ouais, il dit, un psychologue sportif. Moi, je pensais que les psychologues, c'était juste quand ça allait crissement mal. Là.
Mmh, ben
le dernier rempart pour t'empêcher de tomber, c'est un psychologue. Les psychologues, ça l'aide. Lui, dans son cas, à lui, son psychologue sportif, c'était juste pour l'aider à te donner plus de performance au niveau psychologique, puis physique par la suite. Donc, tu sais, le psychologue, au départ, était vu comme quand ça va toujours mal. Mais tu peux aller voir un psychologue. Si tu sens que ton tableau de bord commence à être allumé, il peut être là pour t'écouter.
Le défi à l'heure actuelle, là, c'est qu'il y a des listes d'attente partout. Donc, de là l'importance... Tu sais, c'est comme notre système de santé. Ça s'appelle l'assurance maladie. Tu sais, on attend d'être malade pour y aller. Mm-hmm. Au lieu de promouvoir les saines habitudes de vie, mais on le fait de plus en plus là, aujourd'hui. Là. Mais moi, je suis d'avis que si tout le monde... Tu sais, Jean-Marc Parent a popularisé l'expression « flash tes lumières ». Là. Si tout le monde, sur une base mensuelle, checkait ses lumières, on serait capable, en quelque sorte, de réagir ponctuellement à des situations plutôt que d'attendre trop longtemps avant qu'il soit trop tard, finalement. Donc, c'est ça, c'est qu'on vit dans un modèle où, justement, on se rend jusqu'au bout, on va chercher les soins, on s'outille, puis là, on apprend de cette situation-là. Donc, la prévention, c'est pas sexy. Alors, moi, cet outil-là, depuis que je l'utilise, j'ai réglé mes palpitations, j'ai réglé l'anxiété. Pourquoi? Parce que quand j'ai des lumières jaunes d'allumer, là, autrement dit... les stratégies qui sont proposées, c'est récupérer, ralentir, se reposer. Et moi, avant, quand j'étais débordé, quand je me sentais des fois procrastiné, j'avais tendance à peser sa pédale encore plus plutôt que de prendre un moment de recul. Donc, dans les vies effrénées qu'on mène, c'est sûr et certain que de prendre du temps pour soi, c'est la base, c'est la clé. Donc, comme exemple, quand je travaillais chez Desjardins, on avait une salle de luminothérapie. On en parlait là, il y a quelques instants. On invitait en quelque sorte là, les employés à aller se reposer une couple de minutes. Ben, Yannick, cette salle-là était toujours vide.
Toujours vide. Les gens étaient gênés.
Ben, les gens étaient gênés. Les gens, il y avait un autre facteur, c'est que j'estime qu'on n'en faisait pas suffisamment la promotion. Donc, ça dépend de la culture de l'organisation, tu sais. Puis je suis pas en train de dire chez Desjardins, là, tout le monde travaille, le vent à terre, là, c'est pas ça. Mais c'est qu'il faut que les organisations soient en mesure de dire, écoute, ici, là, c'est important que tu prennes soin de toi. Parce que si tu prends soin de toi, tu vas être en mesure de mieux prendre soin des autres. C'est le concept du masque oxygène. T'sais. Si tu manques d'oxygène, tu peux pas être rayonnant, tu peux pas être mobilisé à la limite. Là. Donc, les gens aujourd'hui, malheureusement, puis il faut appeler un chat, sont fatigués. Et quand on regarde les statistiques, c'est une personne sur deux qui vit une forme de détresse psychologique. Puis je le sais que les gens n'aiment pas le mot détresse. Moi non plus, je l'aime pas. C'est comme si on disait à quelqu'un, t'es laid, t'es gros, tu pues. Mais ce que ça veut dire, essentiellement, dans mon jargon, c'est que tu as des lumières d'allumer.
Ouais.
Tu n'es pas non fonctionnel. C'est juste que tu as des lumières d'allumer comme tout le monde. Moi-même, comme ambassadeur là, engagé en santé mieux-être, je suis pas mal dans le jaune ces temps-ci. Ce que ça veut dire, c'est que je suis en réaction. Mais curieusement, mais en fait heureusement, c'est que maintenant, je suis mieux outillé. Fait que je suis capable de surveiller mes cadrans. Et là, ben, contrairement à avant, c'est que je suis capable de travailler mes lumières allumées pour les ramener vers la zone de santé qui est la zone verte. Fait que moi, c'est ce que je fais. Je vais dans les entreprises pour parler d'un brin de mon histoire, mais aussi de les outiller via ce tableau-là. Et j'ai aussi des concepts comme la valise, la tour de contrôle, la règle du 1 degré.
On va en parler de tout ça, d'ailleurs. Ouais. Écoute, j'ai une multitude de questions à te poser par rapport à ça. Est-ce qu'on sait si on avait un père ou une mère qui faisait des dépressions, est-ce qu'on sait si les enfants, on est plus susceptibles d'en faire? Tu sais, souvent, on nous dit, en Afrique, là, ça n'existe pas, ces affaires-là. Puis aux États-Unis, ça existe parce qu'ils vivent dans un monde un peu plus avec de la performance, de la compétition, même affaire au Canada. Est-ce qu'on sait si c'est culturel ou si c'est directement dans notre sang? C'est-à-dire que si notre grand-père faisait des dépressions, si notre père faisait des dépressions, bon, on a de fortes chances d'avoir des dépressions.
Bien, écoute, moi, je suis pas un médecin, là, mais c'est sûr et certain, si je me fie à mon expérience, si je regarde mon historique familial, mes oncles, mes tantes, du côté de mon père, ont tous eu des enjeux de santé psychologique. Et c'est sûr et certain qu'il y a sûrement un lien à faire au plan de vue scientifique, médical, si jamais tu as un parent qui a des antécédents à la matière. Ceci étant dit, par contre, ce qui est important, c'est que moi, là, mon père a été en affaires toute sa vie, a vécu des atterrissages forcés, puis des dépressions, puis ça a été cyclique là, toute sa vie. Et même, moi, j'ai procédé à l'arrestation de mon père à l'âge de 17 ans parce qu'il allait tellement pas bien, parce que là, il était tombé dans une phase de manie avec la bipolarité. Ça l'a pris un ordre de la cour pour être en mesure de le faire arrêter pour lui prodiguer des bons soins. Et pourquoi que je te raconte ça, Yannick, c'est que cet événement-là, on n'en a jamais reparlé à la table de cuisine. Donc, quand on parle de reproduire un modèle, c'est que moi, j'ai appris, comme jeune garçon, que ces choses-là, on n'en parle pas. Donc, ça vient renforcer le fameux tabou, tu comprends? Donc, quand moi, j'ai vécu mon atterrissage forcé, je me suis dit, bien, c'est ça, je suis en train de reproduire exactement le même modèle. C'est que je parle pas de comment je me sens. Je parle pas de mon état de santé. Mon gars le sait aujourd'hui, tu sais, j'ai fait un enjeu de santé psychologique, check tes lumières, il comprend tout ça. Mais moi, quand j'ai quitté mon emploi là, en février 2020, c'était pas pour devenir conférencier. Moi, j'ai transformé mon épreuve de vie en mission de vie. C'est-à-dire que le message que je porte maintenant peut avoir une trajectoire favorable dans la vie de quelqu'un d'autre. J'ai tracé une ligne dans le sable. C'est que dorénavant, dans ma lignée familiale, la santé mentale ne sera plus jamais un sujet tabou. Donc, au-delà du fait qu'il y a dessus, tu sais, moi je pense que dans notre ADN, ces affaires-là, il y aurait sans doute des liens à faire. Mais si je vois un petit peu plus loin dans ma réflexion, moi j'ai recopié le même modèle, c'est-à-dire prendre des pilules, tu sais, avoir des hauts et des bas. Ça, ces affaires-là, on n'en parle pas.
Mais c'est weird, Jean-François Lacasse, parce que c'est dans la tête, c'est pas palpable. T'sais. Tandis que si t'es une femme, puis ta mère a eu un épisode où elle a eu un cancer du sein, là, on va te prendre en charge, puis bon, ben là, chaque année, on va vérifier, puis sois alerte, puis palpe-toi et tout ça. Tandis que la santé mentale, ah ouais, T'as une dépression, OK, c'est beau. Mais je pense que le signal qu'on peut envoyer, toi et moi, puis comme tu l'as dit, on n'a pas de notion de base des médecins, là, mais c'est si vos parents ont déjà eu des épisodes de santé mentale, si vos oncles, vos tantes ont déjà eu ces épisodes-là...
Déjà, c'est un flag.
Ben, regardez, là, Jeff a un beau tableau pour vous autres. Là. Ouais. Vous pouvez vous observer, vous autres aussi.
Ouais. Moi, je suis un fervent de l'autogestion, OK? Pas de l'auto-diagnostic, là, OK? Pour obtenir un diagnostic, puis ça, c'est ce qui arrive avec les réseaux sociaux aujourd'hui. Pas les réseaux sociaux, mais les Google de ce monde. Tu sais, c'est pas à toi à déterminer si tu es en burn-out ou pas. Faut que tu ailles voir un spécialiste pour ça. Par contre, tu es en mesure de te gérer. Tu sais, vu que je viens de la Beauce, j'ai quasiment le goût de le dire. On a-tu le droit de sacrer à radio?
Ben oui.
OK? Tu sais, gère-toi, Chris. Donc, check tes lumières. Et en fonction de tes lumières, ben c'est toi le pilote. Tu es aux commandes. Ouais. Attends pas de ne plus être aux commandes parce que c'est ça le danger. Tu sais, les gens qui ont des idées noires, là, ils se réveillent pas un matin et ils ont des idées noires. Ça se cultive. Avoir des idées noires, c'est une lumière rouge d'allumer. Mais avant qu'elle soit rouge, elle a été orange. Avant qu'elle ait été orange, elle était jaune. Donc, de là l'importance de... Parce que ce tableau-là, là, c'est pas moi qui l'a inventé, là. Ça, c'est un tableau qui existe en santé mentale depuis des lunes. Moi, je l'ai tout simplement mis aux couleurs de m'aider parce que ça me permet de le vulgariser, de l'expliquer. Puis le tableau, là, il y a des questions sur ton sommeil, est-ce que tu fais de l'activité physique, ton niveau d'énergie. Tu sais, même là, tes douleurs physiques font partie du tableau. Je te donne un autre exemple parce que tu me parlais de symptômes. Moi, avant mon atterrissage forcé, là, je faisais des entorses lombaires à répétition. Le dos pouvait me snapper aux 4 mois. Je faisais des sinusites à répétition. Mon corps me parlait d'une certaine façon. Puis depuis que j'ai repris ma santé psychologique en main, bon, je te mentirais si je te dirais, j'ai jamais pris un antibiotique, là, mais ma santé physique va mieux. Donc, tout est interrelié. Et même là-dedans, on parle des contacts sociaux. Tu sais, si tu t'isoles... Moi qui travaillais au public, là, chez Desjardins, là, à la fin, là, je m'en allais dîner chez nous tout seul sur l'heure du midi parce que je voulais pas voir personne.
Oui, c'est peut-être parce que ton cerveau voulait un break aussi, non?
Oui, j'étais comme... Moi, là, je veux plus voir personne. Là. Et fait que moi, à cette époque-là, j'avais pas le tableau. J'ai revécu un épisode assez difficile durant la pandémie. Je t'ai expliqué tantôt que j'ai quitté ma job juste avant qu'elle commence. Quand la 5e vague a frappé, là, j'ai perdu tous mes contrats. On a fermé le Québec pendant je ne sais pas trop combien de semaines. Puis là, j'ai redroppé. Là. J'ai dû perdre 25 livres en un mois. Et là, par contre, cette fois-ci, j'étais outillé. Puis je me souviens, là, pendant cette période-là, j'allais à l'épicerie, là. Puis choisir quelle tomate j'allais acheter, là, c'était une épreuve olympique. Fait que quand tu me dis les gens, ils sentent quoi, on sent ça. Fait que moi, j'ai suffisamment flirté avec... j'ai volé à rase-motte plusieurs fois, là, mais j'ai fait des drops dans ma vie. C'est pour ça que je suis capable de comprendre quelqu'un qui... faut que je fasse attention à ce que je veux dire, là. Mais... Quelqu'un qui passe à l'acte, là, je peux comprendre la souffrance que cette personne-là peut avoir.
J'ai jasé avec Serge Larochelle. Je ne sais pas si tu as déjà rencontré cet homme-là. C'est un homme incroyable qui m'en a appris beaucoup sur les gens, justement, qui ont ce type de pensée-là. Puis, ce que Serge me racontait, c'est qu'il me racontait le moment où il avait décidé de passer à l'acte. Moi, j'y étais avec un super de gros jugement, mais qui est quand même quelque chose de logique à dire à quelqu'un qui avait essayé de faire cette affaire-là, puis qui a mis la vie peut-être de gens en danger ou qui aurait traumatisé des gens. Il était sur, de mémoire, il était sur Henri IV. Je peux me le permettre de le nommer parce qu'il a écrit un livre là-dessus, ouais. Puis je l'ai reçu 2-3 fois en entrevue. C'est un gars hyper intéressant. Donc, il était pas sur Henri IV. Henri Bourassa, à la hauteur de l'hôpital en bas, là. Puis il avait décidé, lui, que c'était terminé. Puis c'était là que ça se passait. Puis il a attendu qu'un camion descende
sur Henri Bourassa.
Sur Henri Bourassa, merci. Et où la lumière, où le 4 spots, là, ben, il a décidé que quand le véhicule allait arriver à 50, 60 ou 80 km/h, qu'il allait se pitcher devant. Puis par un miracle, le camionneur a réussi à l'éviter, puis il est passé en dessous de la remorque sans que rien ne lui touche. Mmh. Et j'ai dit, ben voyons, Chris, Serge, t'as-tu pensé au camionneur? C'est lui, il mérite pas de tuer quelqu'un, là. T'as-tu pensé? Il dit, Anne, je vais juste te dire une affaire. Il dit, on souffre tellement en dedans qu'on pense pas à nos proches, on pense pas à nos enfants. On pense pas à notre job. On pense pas aux camionneurs qui pourraient voir cette affaire-là. On veut juste mettre fin à nos souffrances. Puis en plus, on a l'impression qu'on est un fardeau pour tout le monde. Puis ça va être vraiment une bonne chose lorsque je serai plus là. Puis c'est là que j'ai compris que, tu sais, il y a des choses que moi, je comprenais pas avant de côtoyer Serge. Mmh. Puis là, maintenant, je comprends peut-être un peu plus. Puis, tu sais, je le répète, si vous avez besoin d'aide, la meilleure place, c'est l'hôpital, l'urgence. J'ai un plan. Je veux mettre fin à mes jours. Exact. Puis ils vont vous prendre en charge. Ou encore même appeler la police. Puis eux autres, ils ont des mots de code pour ce qui est de l'hôpital. Donc, ils vont vous accueillir très rapidement quand vous allez rentrer à l'hôpital. Mais j'ai arrêté de juger. Mmh. Tu sais, la tristesse est encore là, tu sais, l'incompréhension peut être encore là aussi. Mais pour ces gens-là qui vivent ça, le fait qu'ils ont passé à l'acte puis qui aujourd'hui sont encore en vie, ben eux sont capables de nous l'expliquer convenablement, c'est qu'ils ont l'impression que c'est un fardeau, puis ils souffrent tellement qu'ils veulent abréger leur souffrance, puis ils pensent à rien d'autre.
Puis là, pour ceux qui nous écoutent, là, je tiens à dire, quand je vais en entreprise, là, c'est pas mélodramatique. Là.
Ben non.
Parce que là, on parle, on est deep, là, on est là-dedans, là, mais tu sais...
Mais ça l'aide le monde. Je suis persuadé que tantôt, je vais aller sur mon Messenger, Jean-François Lacasse, puis il y a des gens qui vont dire, Chris, merci d'avoir fait cette émission-là, parce que maintenant, je peux l'envoyer à mon chum, ou je peux l'envoyer à ma blonde, ou je peux l'envoyer à mon frère, qui va savoir maintenant ce que moi, je ressens.
Oui, oui. Ouais. Puis, tu sais, c'est sûr, moi, je fais ça en entreprise, je suis très, très, très présent aussi sur les médias sociaux parce que, étant donné que j'ai commencé puis que la pandémie est arrivée, je me suis servi des médias sociaux pour bâtir ma notoriété, ma crédibilité. J'ai reçu des gens en entrevue. Je me suis bâti un studio à la maison. Et bien évidemment, 2023 a été ma première année à temps complet dans le corporatif. Puis c'est inspirant. Parler de santé mentale. Moi, je le vois avec les commentaires que je reçois. Tu sais, la vie va tellement vite aujourd'hui. Les organisations sont en mesure d'offrir un cadeau essentiellement à leurs employés pour dire « Hey, c'est quoi ce gars-là? Il y a quelque chose d'intéressant à dire. » Puis les concepts, bien, ça va être utile, ça va vous outiller. Puis c'est ce qui m'amène aussi là, à créer le plus gros projet de ma carrière là, que j'ai déjà lancé. Tu me permets d'en parler?
Ben oui, allons-y.
C'est, tu sais, j'étais dans une espèce d'énergie de manque au mois de mars où je me disais, crème, l'année passée, j'avais 3-4 conférences au mois d'avril, puis cette année, je n'ai pas une de bouquet. Qu'est-ce qui se passe? Puis je le sais que mon sujet, il n'est pas sexy, là, mais là, j'étais comme frustré. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, ah non, attends un peu, là, I have things wrong, là. C'est juste, ça me permet d'avoir le temps de créer quelque chose de nouveau pour avoir plus d'impact avec mon message. Puis, tu sais, il existe des téléthons pour toutes sortes de raisons. On connaît bien Enfants Soleil pour les enfants malades, puis tout ça. J'ai dit, il n'existe rien en santé mentale. Et là, j'ai dit, c'est ça. Je vais appeler ça la May Day. May pour le mois de mai. Day pour la journée du mois de mai. Et on va lancer le premier webathon en santé mentale pour amasser 8 millions de dollars pour 5 fondations établies qui, eux autres, veulent pas, puis ça, c'est un autre aspect. Tu sais, la philanthropie, là, c'est pas évident là, de nos jours, là, dans le contexte économique actuel. On cogne toujours aux mêmes portes, on cogne toujours à la porte du gouvernement ou des entreprises. Puis là, je me suis dit, et si on mobilisait les Québécois? On est combien au Québec en population?
On est 9 millions.
Bon. Ben moi, je pensais qu'on était 8. Fait que c'est pour ça que c'était 8 millions, mon objectif. Tu comprends?
Ben, j'ai arrondi ça, on est autour de 8,6,
bon,
8,7.
Ben, je vais être obligé d'augmenter mon objectif à 9 millions. Le principe est simple, Yannick. As-tu déjà donné une pièce à quelqu'un, toi?
Ben, en fait, je donne assez régulièrement, je te dirais chaque année. Je le fais malheureusement surtout le temps des fêtes.
Okay.
Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que ça me fait plus penser à quand moi j'étais jeune ou pendant le temps des fêtes, je me rendais compte que les finances de ma famille étaient crissement pas les mêmes que ceux qui habitaient dans des belles maisons. Nous, on était en logement au centre-ville de Québec. Fait que quand étant plus vieux, gagnant bien ma vie, on dirait que quand c'est le temps des fêtes, je vois qu'il y a des organismes qui recherchent du financement. Je donne. Avec mon chum Jocelyn Lusignan, qui doit probablement nous écouter, qui est inspecteur en bâtiment, on donnait des cartes aussi dans les dernières années, des cartes de 150$ pour des épiceries pendant le temps des
fêtes.
C'est
super cool.
C'était des entreprises qui nous donnaient 150$. Puis après ça, ben, moi, mon fun, c'était pas de ramasser le 150$ auprès des entreprises. Mon fun, c'était d'aller porter le 150$ directement dans les mains de la dame puis de voir les enfants.
Exact.
T'sais, de dire, OK, ben là, c'était 150$-là, il est vraiment bien investi ici. Là.
Exact. Donc, la m'aider, là, le web-auton, c'est, étant donné que c'est le ménage du printemps, là, on a tous une pièce qui traîne dans son char, dans son sac de golf qu'on vient de ressortir. On a peut-être ça qui traîne sur le comptoir. Ça fait des années qu'on dit que les ressources, il manque de ressources en santé mentale. Donc, tu sais, la fameuse expression « seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin », arrêtons de focusser sur le manque de ressources. L'argent, il est là. On a tous de l'argent qui traîne dans quelque part, puis tu n'es pas obligé de donner 20$, tu peux donner à la hauteur de tes moyens. Mais imagine si 9 millions de Québécois là, sortent juste une pièce de leur poche. C'est 9 millions de dollars qu'on verse à 5 fondations qui œuvrent en jeunesse, pour les soins, leur établissement, en recherche, pour les gens de l'entourage, puis pour les entrepreneurs. Je veux dire, moi, je trouve l'idée simpliste, mais à la fois mobilisatrice, et c'est possible de le faire. Donc, je veux revenir annuellement avec cette initiative-là. Donc, cette année, c'est vraiment un...
Tu vas l'amasser comment, ce dollar-là, par chaque citoyen?
Ben, en fait, c'est d'utiliser les réseaux sociaux, créer un build-up. L'entrevue d'aujourd'hui me permet aussi d'en parler. J'estime que les médias traditionnels vont s'emparer de cette nouvelle-là parce que la levée de fonds commence lundi, le 6 mai. Ça va durer 3 semaines jusqu'à notre webathon qui, lui, est prévu le 24 mai pendant 18 heures, où ce qu'on va annoncer les résultats, avoir des artistes, avoir des gens qui vont venir en entrevue, en live, sur LinkedIn, sur Facebook, etc. Donc, les gens vont donner directement à la fondation. L'argent passe pas par moi, là, parce qu'ils vont dire « la casse, il va partir au Bahamas ».
Non, c'est ça. Non. Mais pas juste ça, c'est parce que tu sais, il y a tellement de gens qui ont abusé. Moi, j'aime ça quand ça va directement dans les poches de la fondation. T'sais, moi, c'est rendu que, je veux pas les nommer, là, mais même à l'épicerie, quand elle dit « voulez-vous ajouter un dollar », je le mets pas.
Ouais.
Parce que je sais qu'il y aura peut-être des frais d'administration, puis je sais que cette entreprise-là vont dire hey, « ben, c'est nous qui avons donné ça à ces fondations-là, donc le retour d'impôt va être peut-être un peu plus favorable. »
Si tu me permets, juste la structure là, de la m'aider, c'est quoi? Là? Les frais fixes, c'est zéro. Parce qu'on fait ça en ligne. On n'a pas besoin de louer de local. On n'a pas besoin de louer des rien. Là. Le seul investissement, c'est du temps. Donc, nous, mon équipe et moi, on fait du bénévolat pendant 3 semaines. Mais évidemment, chaque dollar, les seuls frais qu'il y a, là, c'est des frais administratifs d'à peu près 1 000 $ qui vont être chargés par l'une des fondations pour le back-office de tout ça. Mais l'entente est déjà signée. L'ensemble des bénéfices va être réparti de façon égale entre ces 5 fondations-là. Donc,
Puis eux, ils interviennent directement auprès des gens qui ont besoin d'aide?
Bien, je donne un exemple. La fondation Jeune en tête, elle va dans les écoles faire des ateliers de prévention et de sensibilisation au secondaire. Moi, j'ai assisté à leurs ateliers, là. C'est juste incroyable. Si j'avais vu un atelier comme ça là, à 16 ans, j'aurais probablement eu moins de difficultés dans ma vie adulte. Là. Et pour donner un autre exemple, la fondation de l'Institut universitaire de santé mentale de Montréal, eux autres, ils sont en train, ils ont un projet pour un centre de crise. Donc, quand tu es en crise, tu peux automatiquement aller là puis être pris en charge. Les entrepreneurs, avec persévérance entrepreneuriale, t'sais, dans le contexte économique actuel, eux autres, là, ils ont sorti un programme pour accompagner les entrepreneurs. Là. Ils ont ouvert 100 places. Ils ont eu 1 000 demandes. Donc, au moment où on se parle, Il y a un papa, il y a même une maman, et ou un enfant où ce que la santé mentale se dégrade actuellement. Là. Et on est à bout de ressources. Donc, c'est important de les épauler, de les accompagner, ces organisations-là, parce qu'eux autres, ils ont l'expérience, mais ils ont aussi déjà la structure pour déployer des outils de prévention puis de sensibilisation à la population. Donc, seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. C'est notre concept là, pour cette initiative-là. On veut définitivement aller plus vite et plus loin parce qu'à un moment donné, il faut sortir des sentiers battus là, en matière de levée de fonds en santé mentale. Il faut arrêter de cogner à la porte du gouvernement. Ils n'ont pas d'argent. On est 11 milliards dans notre marge de crédit collective. Là. Donc, sacrez-leur la paix. Par contre, si comme papa et comme maman, on trouve ça important, ben mobilisons-nous pour la m'aider.
Ouais.
Puis.
Mais tu sais, moi j'ai plus confiance en ces organismes-là que si tu envoyais ce 8 millions-là directement au gouvernement. J'ai l'impression qu'ils trouveraient une façon de le perdre à quelque part ou de le dépenser à une autre place. Souviens-toi, je fais un peu de politique avec toi, on s'amuse un peu. Mais quand il y a le fou à l'Halloween a décidé de découper des gens avec un sabre, quelques jours plus tard, la vice-première ministre du Québec, Geneviève Guilbeault, était sorti en parlant de santé mentale. Il y avait Lionel Carman aussi qui était à côté. Puis il avait annoncé des investissements qui n'avaient jamais été vus en santé mentale. Je pense que c'était au-dessus de 100 millions de dollars qui avaient été annoncés dans divers programmes et tout ça. Puis quand je jase avec des intervenants qui sont directement liés en santé mentale puis qui aident les gens en santé mentale à Québec, ils n'ont jamais constaté aucun changement. Où est passé ce 100 millions de dollars-là? Ils ne l'ont pas vu, eux autres. Fait que ça va certainement quelque part, si on en croit le gouvernement, mais visiblement, ça tombe pas pour aider des gens comme toi qui avaient des épisodes assez particulières il y a de ça quelques années. De quoi je voulais jaser avec toi aussi? Je viens de le perdre, mais c'est pas plus grave que ça. Ah oui, je viens de le retrouver. Pourquoi, quand moi et toi, on était jeunes, que ce soit à l'école primaire, peut-être primaire c'est trop jeune, mais au secondaire, tu sais, secondaire 2, 3, 4, 5, on est en mesure de comprendre bien des affaires. Pourquoi il n'y avait pas des Jean-François Lacasse qui se présentaient dans les amphithéâtres de l'école pour essayer d'outiller les jeunes, puis parler justement de ce type de tableau-là? Tu sais, on le fait pour l'environnement. Tu sais, faites attention à l'environnement. On le fait pour... c'est important là, de bien manger, puis les OGM, là, les organismes transformés, essayer d'en manger le moins possible parce que là, ça peut, on ne sait pas ce que ça peut donner à long terme, peut-être des épisodes de cancer. Mais pour ce qui est de la santé mentale, ils n'en parlent pas.
Bien, écoute, moi, le seul exemple que je connais, c'est celui de la Fondation Jeunes en tête avec ce qu'ils font.
Mais t'en avais-tu au secondaire? On était à peu près du même âge.
Non,
on n'a pas vu ça passer.
Pas vu ça passer par tout.
On me disait, t'es un homme.
Oui, exact. puis tu sais, pour un conférencier comme moi, par exemple, qui aurait envie d'y aller dans les écoles secondaires, c'est parce que moi, ça ne paye pas mon hypothèque, là, parce qu'ils n'ont pas les sous là, pour t'engager. Tu sais, les écoles, là, moi, mon ex-femme est enseignante. C'est elle qui payait les photocopies, là. Donc, ils peuvent pas engager un conférencier à coups de milliers de dollars pour être en mesure d'aller exposer son message aux jeunes. Moi, je l'ai fait l'année passée. Je choisis, là, quand je fais les choses gratuitement, je suis allé ici, là, au collège Saint-François de Laval. Mon amie Véronique Hébert, qui est au niveau de la fondation de cette école privée-là, a dit « Hey, on a une semaine zen, puis on aimerait ça faire intervenir quelqu'un. » Bien, je suis allé sur l'heure du midi, puis je leur ai parlé du tableau de bord. Les jeunes y ont apprécié. Mais je ne peux pas faire ça, moi, 200 fois par année.
Ouais.
Mais chose certaine...
Mais ce serait pas une mauvaise chose.
Oui, ça manque. Ça manque. Et soyons aussi créatifs. On a des outils technologiques incroyables aujourd'hui. Il n'y a rien qui empêche aussi là, de faire peut-être quelque chose qui se ferait en vidéo, puis faire écouter ça aux jeunes. Un conférencier qui m'inspire beaucoup, qui s'appelle Sylvain Boudreau, lui, c'est le Moi Inc. Là. Je sais que le Moi Inc., là, ça fait 30 ans qu'il fait ça. Là.
Écoute, j'ai assisté à sa première conférence.
Ouais.
J'étais employé au Cosmos à ce moment-là.
Ah ouais?
Puis il nous parlait d'entrée en scène. Puis il était déjà fantastique au début de sa carrière. Puis je l'ai reçu il y a de ça quelques semaines ici, puis il est tout autant fantastique.
Non, c'est clair. Fait que c'est sûr que tu as raison, il faut en parler davantage, puis tu sais, on a à peu près la même âge, là. Tu trouves-tu qu'il y a plus de pièges pour nos jeunes aujourd'hui que nous autres, on avait dans le temps?
Pas mal plus.
C'est incroyable.
Ouais.
C'est incroyable.
Je veux pas dire... mal plus. Je regarde mes gars, moi, des fois, qui... Tu sais, ce matin, j'étais chez leur mère. Leur mère était en congrès à Montréal. Elle avait un congrès animé. Puis j'étais avec mes gars, puis ils se sont levés. Puis moi, chez nous, ça... Tu sais, à table, il n'y a pas de cellulaire, là. Tu sais, ça n'existe pas. Quand ils se lèvent, bon, ils peuvent écouter la télé, mais c'est pas vrai qu'ils vont écouter des YouTubers. Là, matin, je regarde mes deux champions se lever avec l'air de doux. Salut, pas, salut, oui, ça va, oui, oui. Puis là, ben, je vois qu'ils commencent à jouer avec leur cellulaire. Je dis, qu'est-ce que vous faites là? Ouais, ben, on est chez maman, on a le droit. Non, non, ouais. Papa est là. Là. Ouais. On va jaser, venez vous asseoir. Puis là, on a déjeuné, puis on a parlé en déjeunant. Puis je dis... Mais vous, ça, déjeuner avec papa? Oh oui, on jase. Mais c'est comme si on avait, avec les technologies, on s'était délesté un peu de notre job de parent. Ah, oui. Ah ben, c'est, le cellulaire garde mon enfant, ou ben le YouTuber à télé, il garde mon enfant. C'est juste de jaser avec eux autres. Puis, comment était ta journée d'hier? Puis, était-tu une belle journée? Puis, de peut-être d'en savoir plus. Mais oui, les pièges sont là. Ils socialisent pas bien quand les cellulaires sont en place dans un party, je peux te le confirmer. Party de hockey, j'ai vu ça, là. Les jeunes qui avaient des cellulaires étaient totalement isolés, puis ils hypnotisaient les autres qui étaient autour. Puis ceux qui avaient pas de cellulaire puis qui s'amusaient avaient l'air à avoir pas mal plus de fun que ceux qui étaient gelés sur l'écran.
Puis là, ils sont exposés à toutes sortes de contenus. Du bon contenu, parce qu'il existe du bon contenu, là, comme ton émission, là, puis comme le podcast, puis tout le kit. Mais, tu sais, sur TikTok, là, c'est pas vrai que c'est tout positif, là.
Ah non.
Fait que nos jeunes, ils trempent dans cet environnement-là. Ils ont les mêmes désirs ou ils ont les mêmes idées que nous autres, on avait à l'époque. Mais il faut les surveiller de près. Mais en même temps, au-delà de ça, je les trouve allumés. Nos jeunes aujourd'hui sont plus ouverts à des inégalités, sont plus ouverts à la diversité. Il y a beaucoup de belles choses qui se font. Puis je pense que c'est une génération aussi qui est plus outillée peut-être en santé psychologique que moi puis toi. Parce que, en fait, ils s'en parlent entre eux autres. Moi, puis il y a des initiatives dans les écoles, même s'il y a peu de moyens. T'sais.
Ce soir, on a le plaisir de passer la soirée avec Jean-François Lacasse, Jeff Lacasse, qui est conférencier et le bâtisseur de la communauté d'entraide M'aider. Pour les gens qui veulent en savoir plus sur toi, sur ton tableau de bord, sur les conférences que tu donnes, ils peuvent te rejoindre à quel endroit?
Super facile, www.jflacasse.com. Je suis également présent sur LinkedIn et sur Facebook, donc c'est très, 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 très simple. Et joignez-vous à nous pour la m'aider. Là.
Ben oui. Puis d'ailleurs, restez là parce qu'après la pause, on va placoter encore un peu. Merci. Ce soir, on a le plaisir d'être avec Jean-François Lacasse, qui est conférencier et le bâtisseur de la communauté d'entraide M'aider. Quand on dit communauté d'entraide, as-tu commencé à te bâtir une communauté où les gens s'entraident les uns vers les autres?
J'ai fait ça durant la pandémie, principalement. Oui. Parce que, comme je t'ai expliqué tantôt, moi, je quitte ma job. Là, la pandémie arrive. Je suis chez nous. J'ai un désir de servir. J'ai le goût de faire quelque chose. Mais là, je fais quoi en attendant? Donc, j'ai créé cette communauté-là. On s'est supporté beaucoup durant la pandémie. Les gens se branchaient durant des entrevues que je faisais en direct, ces choses-là.
C'est très cool, ça.
Ouais. Puis, sais-tu quoi, Yannick? Moi, j'ai reçu des messages, puis on a sauvé des vies pendant la pandémie.
Ouais. T'es-tu capable de décrocher des fois de ces gens-là? Moi, en étant à la radio, tu comprends qu'il y a des gens qui ont... Tu sais, j'étais dans une autre vie, j'animais le soir, je prenais des lignes ouvertes, je jasais de sujets très personnels avec des gens que je me rendais compte que j'étais les premiers... c'était la première discussion qu'ils avaient dans leur journée.
Ouais.
Donc, ils avaient l'impression que j'étais leurs amis. Puis parfois, tu sais, la fin de semaine... pas de radio, il n'écoutait pas, donc il m'écrivait, puis je sentais que ça filait pas. Puis je vais t'avouer une chose, Jeff, je n'étais pas capable de décrocher dans ma tête. Je me disais, mettons, je pensais à Martin. Martin, es-tu correct? Là? Parce qu'il m'a écrit après-midi, puis il filait pas.
Ouais.
Toi, es-tu capable de décrocher tout en étant dans ce merveilleux sujet de la santé mentale?
Les premières années, je te dirais que non. Aujourd'hui, je te dirais que oui, parce que je réussis à mettre mon masque oxygène en premier, justement, là. OK? Et moi, je suis un hypersensible.
Ouais.
Ah, imagine, un avocat, un ex-avocat, planificateur financier hypersensible. Tu comprends qu'il fallait que je change de département. Non, blague à part. C'est certain que maintenant, par contre, je prends plus de distance par rapport à leur situation. Moi, je ne peux pas rien faire. Depuis que j'ai lancé l'initiative du Webauton, on a fait beaucoup de bruit sur les médias sociaux. J'ai reçu justement cette semaine quelqu'un qui m'a envoyé un message comme quoi il n'allait pas bien. Puis je l'ai très, 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 très bien géré. Plus que quand j'avais commencé avec la communauté d'entraide M'aider, M'aider. La communauté d'entraide M'aider, M'aider, elle n'existe plus vraiment parce que maintenant, les pages portent mon nom, Jean-François Lacasse. Mais ils ont eu leur raison d'être. Donc, M'aider, M'aider, par contre, ça existe encore parce que c'est mon brand. C'est un jeu de mots. Puis, tu l'as vu, je t'ai apporté une tasse en cadeau. Pas parce que je veux plugger la tasse, mais c'est plus que... Quand je fais des interventions en entreprise, que ce soit le concept de la valise, de la tour de contrôle, l'arrêt du 1 degré, la tasse, là, je donne l'exemple suivant, c'est que, tu sais, j'ai la to-do list aussi, là, la T-O-U-T-D-O-U-X. On a tous une to-do list, là, quoi faire, mais on a-tu une to-do list pour s'occuper de soi? Mm. Quand on prend un café le matin, là, pour moi, c'est un ancrage. Est-ce que je me suis mis à l'horaire aujourd'hui? Moi, avant, j'étais un yes man. Je disais oui à tout.
Tu te mets des 20 minutes, des 30 minutes pour toi?
Mais hein.
Ouais.
Mais hein.
Je pense que c'est le secret.
Si tu le planifies pas, il n'y a pas personne qui va le faire à ta place.
Exact.
Moi, depuis un an, là, c'est sûr que j'ai la chance maintenant de travailler de la maison. Quand je ne suis pas sur la route, évidemment. Moi, je fais une sieste hypnotique à tous les jours. 20 minutes. Il y a de quoi sur YouTube, là. Ça prend 20 minutes. Je réussis à m'endormir, honnêtement, mais juste assez pour me réénergiser. Peut-être que ça, cette formule-là, ça ne fonctionne pas pour quelqu'un d'autre. La personne qui va sortir courir, c'est peut-être son remède à lui c'est ou à
ça.
Elle.
Tu as trouvé ta formule. Je veux juste revenir sur quelque chose d'hyper important que tu as dit, puis tu parlais de ton fameux masque à oxygène, là. Tu sais, souvent, quand on est hyper sensible, tu m'as dit que tu l'étais. Il y a plein de gens qui vont se reconnaître en toi. Ces gens-là peuvent côtoyer des gens qui ont des épisodes de santé mentale où on voit clairement que c'est extrêmement difficile. Mais assurez-vous, vous, d'être outillé, tu sais, mentalement pour aider les autres. Parce que très souvent, les gens hyper sensibles, ça va pas toujours super bien. Puis ils ont tendance à vouloir aider tout le monde autour. Puis ça peut vous amener à tomber encore plus bas. Puis est-ce que tu parles, le masque oxygène, qui est un principe de base en aviation, c'est-à-dire s'il y a un amérissage, tu dois t'occuper en premier de toi, te sécuriser, puis par la suite aider les autres. Ben, ça devrait être un principe de vie pour à peu près tout le monde. Assurez-vous que vous êtes sécuritaire pour aider les autres autour.
Puis c'est un message que je passe en entreprise. C'est la même affaire. T'sais, je veux dire, si tu manques d'air, tu ne peux pas en donner à quelqu'un d'autre. Donc... des fois, là, dans la simplicité, il faut revenir à la base. Là. Les choses simples, ils ont une logique. Puis, tu sais, comme j'ai aussi un concept qui s'appelle la règle du 1 degré. Je voudrais peut-être qu'on le partage là, quelques instants. Là. La règle du 1 degré, là, c'est si tu dévies ta trajectoire de un seul degré, puis tu maintiens ce degré-là pendant des milliers de kilomètres, ça change la destination.
T'es rendu, t'as fait plusieurs 360.
Exact. Donc, souvent, dans l'environnement de la santé, on veut faire des virages à 180 degrés. Arrêtons de se mettre cette pression-là. Mm. Fais un petit degré.
Parce qu'au prochain virage à 180, tu reviens où tu étais au départ.
Tu sais, c'est ça, oui, exact. Puis, moi, je voudrais challenger les gens qui nous écoutent. C'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois. Ça n'est un degré, ça.
Ouais.
Puis même, c'est quand la première fois que tu as fait quelque chose pour la dernière fois. Ça aussi, c'est un degré.
Mm.
Et c'est juste d'avoir cette volonté-là de vouloir faire des degrés dans sa vie pour être en mesure d'améliorer son sort. Mais c'est ça, mettre son masque oxygène en premier, c'est pas d'être égoïste. C'est de l'égoïsme sain, c'est de l'autocompassion, exact. Tout simplement. Donc, il faut pas penser que moi, je mets mon masque oxygène en premier puis je pense pas aux autres. Non, au contraire. tu penses aux autres, mais faut que tu sois en mesure de penser à toi d'abord.
Ouais. Puis ça non plus, on ne nous l'avait pas nécessairement enseigné. Hey, on termine avec ça, il reste à peu près 30 secondes. Jean-François Lacasse, tu travailles sur l'écriture d'un livre. Vas-tu devenir le prochain Pierre Lavoie de la santé mentale, exemple? C'est-tu un bon exemple à donner?
C'est exactement ce que j'ai déclaré en 2021. Oui. Ouais. Et je le dis sans prétention. Pierre Lavoie, pour moi, c'est un modèle et j'estime qu'à travers l'initiative de la M'aider, c'est le premier pas dans cette direction-là. Et ben écoute, de toute façon, totalement détaché du résultat, mais Pierre Lavoie, c'est quelqu'un qui définitivement m'a inspiré. Oui. Et ça prend des mouvements collectifs inspirants pour être en mesure de changer les choses à long terme.
Donc, tu vas aller faire le prochain Ironman à Hawaï?
Non, ça, c'est pas des affaires qui sont faites pour moi. Moi, Yannick, j'aime autant être sur un terrain de golf,
ouais,
avec un kart, la petite musique, mes chums, une petite Coors Light. Ouais. Puis pour moi, ça, c'est bon pour ma santé mentale, plus qu'un Ironman.
OK, bien, j'ai hâte de voir ton livre. Lorsqu'il sera terminé, ben tu m'écriras, puis on aura le plaisir d'en jaser ensemble. Jean-François Lacasse, ça a été un plaisir de te rencontrer. Pas mal persuadé que les auditeurs ont apprécié. Jean-François Lacasse, c'est un conférencier et le bâtisseur de la communauté d'entraide M'aider. Pour les gens, les chefs d'entreprise qui aimeraient avoir justement ce type de conférence-là en santé mentale, mais très, très positif, là, pas dans le drama.
Non.
Ils peuvent te rejoindre, jefflacasse.com.
www.jflacasse.com. Mes initiales, Jean-François, il n'y a pas de trait d'union, jflacasse.com. Puis sur LinkedIn, là, moi, je publie 5 fois par semaine. Donc, Jean-François Lacasse sur LinkedIn, là, presque 10 000 abonnés, là, mais chose certaine, moi, je dépose des pièces de contenu inspirantes à tous les jours pour être en mesure de supporter nos équipes.
Je vous souhaite de passer un super de beau week-end, une belle soirée sur les ondes de Boulevard et on se reparle lundi 11h pour ce qui est de Marceau le midi. Merci.
Merci à toi.